le mag au carré en partenariat avec la lettre Maître Carré.
Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag au carré avec un sujet, vous allez voir aujourd'hui, passionnant puisque malgré la crise, l'immobilier logistique se montre résilient. Il a su montrer toute sa flexibilité. On peut s'interroger aussi bien sur les modèles XXL en périphérie des villes que sur les modèles XXS, donc plus petits à l'intérieur même des centres urbains. Alors depuis la crise du Covid, on le sait, c'est la logistique du dernier kilomètre qui est en plein essor. Deux modèles opposés mais complémentaires. Les entrepôts en plus séduisent désormais les collectivités locales. Ils ne sont plus vus comme un repoussoir, mais davantage comme un atout pour l'emploi et le territoire. Alors, vous l'avez compris, beaucoup de questions à poser à nos invités. Et je dis on parce que, bien sûr, je ne suis pas tout seul. Avec moi pour en parler, Audrey Jourdain. Bonjour Audrey.
Bonjour Fabrice.
La rédactrice en chef de la lettre Maître Carré, qu'on va montrer tout de suite, hein, puisque l'épisode, le numéro en tout cas de mai, vient de sortir. Et puis, nous sommes également très heureux de recevoir nos deux spécialistes du jour. Olivier Parizeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Country Manager France de Manpark. Et en distanciel, nous sommes en liaison avec Hervé Paillard. Bonjour Hervé. Hervé Paillard, qui est fondateur d'Atelier M3. Alors, beaucoup de questions, je vous l'ai dit, mais pour entrer directement dans le vif du sujet, on passe tout de suite à votre chronique, Audrey.
Le mag au carré, l'édito d'Audrey.
Les enjeux de la filière logistique sont nombreux. La réévaluation de la chaîne d'approvisionnement, le développement de la logistique urbaine, la modernisation du parc, mais surtout, le parc logistique doit s'étendre davantage et vite. Oui, la demande est exponentielle. La croissance de la vente en ligne entraîne à elle seule un besoin de 12 millions de mètres carrés d'espace logistique supplémentaire par an jusqu'en 2025, et ce, rien qu'aux États-Unis et en Europe. Et il n'y a pas que le e-commerce qui dynamise la demande. Les commerçants physiques ont besoin de plus d'espace logistique pour faire face à la concurrence grandissante. Ils doivent s'approvisionner plus rapidement et avoir plus de stock. Alors, par conséquent, le marché de l'investissement est en bonne santé au vu du contexte. 733 millions d'euros ont été investis sur le marché français durant le premier trimestre 2021. C'est certes deux fois moins qu'au premier trimestre 2020, mais c'est quand même plus de 60% par rapport à la moyenne décennale. Et c'est le deuxième meilleur démarrage depuis 2010, après 2020, année record. Mais terminons sur une excellente nouvelle pour notre industrie. La France devrait continuer à attirer les utilisateurs, notamment pour ses coûts de stockage compétitifs. Oui, alors qu'en fait, Paris constitue l'un des principaux marchés logistiques du monde, elle se situe seulement au 23e rang des villes les plus onéreuses en termes de stockage. C'est Londres qui est la ville la plus onéreuse. On retrouve aussi Stockholm et Tokyo. Et la France est d'ailleurs le premier pays européen dans lequel les grands utilisateurs ont prévu d'augmenter leur présence, et ce, devant l'Allemagne et l'Espagne.
Merci Audrey, voilà, qui plante le décor. Ben voilà, hein, alors que Paris bat des records, en tout cas dans le résidentiel, eh bien on apprend que ben, pour le stockage, en tout cas, c'est pas si cher que ça. Alors, première question avec nos invités. Olivier Parizeau, une question justement sur cette crise qu'on vient de connaître. Bon, on espère évidemment qu'elle est maintenant derrière nous. Comment est-ce qu'elle a mis à l'épreuve la chaîne d'approvisionnement ?
Alors, bonjour à tous d'abord. Donc la crise sanitaire a mis en lumière les problématiques d'approvisionnement. On pense aux masques, et la complexité de stockage et de distribution. Et là, on pense à la logistique des vaccins et les conditions de stockage de certains d'entre eux. Plus généralement, on s'interroge sur le fait d'assister à la poursuite de cette globalisation ou bien à des mouvements de relocalisation de production avec la fabrication au plus près des marchés de consommation dans une logique plus de circuit court. Mmh. En réalité, la crise n'a fait qu'accélérer les mouvements qui étaient déjà à l'œuvre et dans la, dans la manière dont les entreprises conçoivent leur supply chain, leur chaîne d'approvisionnement. D'abord, de plus en plus vite, avec de plus en plus de choix. Donc, ça se traduit par la coexistence, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, de très petits et très grands entrepôts et des systèmes de sécurité dans les chaînes d'approvisionnement de manière à ce qu'elles soient plus résilientes. On a déjà dit le mot tout à l'heure. C'est-à-dire donc apte à supporter des ruptures d'approvisionnement ou des aléas impactants comme un confinement. Force est de constater qu'au cours des confinements, les boutiques physiques étaient fermées, mais les boutiques Internet non, et les consommateurs ont pu continuer à se faire livrer tout ce qui est jugé non essentiel.
Alors Olivier sourit, bien sûr, parce qu'on a appris que Audrey, vous étiez une chaude partisane justement du commerce en ligne, et ça explique, hein, vous l'avez dit dans votre chronique, l'explosion effectivement de ces entrepôts. Olivier, je vous interromps une seconde. Justement, on peut préciser peut-être comment a évolué ce marché des entrepôts XXL, puisque Mandepark est quand même un des spécialistes.
Oui, en fait, le marché de l'entrepôt XXL a cessé de croître en taille, justement. Il y a encore quelques années, le XXL était beaucoup plus réduit qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on tend à avoir des plateformes de plus en plus grandes. Et parce que ça fait probablement le pendant avec le dernier kilomètre. C'est-à-dire que pour pouvoir livrer en centre et hypercentre, il faut en amont et bien connecté, il faut des grands entrepôts qui offrent une profondeur de gamme suffisante pour éviter la rupture de stock et donc tenir la promesse de livraison. Il faut également des grands entrepôts parce que c'est eux qui permettent d'optimiser les coûts de transport, la saturation des moyens de transport, donc s'assurer que les camions sont entre guillemets à peu près complets en entrée et en sortie. Ce sont eux également qui permettent de mécaniser la préparation de commandes, c'est-à-dire donc on assiste à de plus en plus d'investissements de plus en plus lourds en termes de préparation automatisée de commandes dans les entrepôts. Voilà.
D'accord.
Donc c'est comme ça de notre point de vue que les bâtiments sont en train d'évoluer, plus technologiques, plus connectés, plus grands offrir des profondeurs de gamme suffisantes pour pouvoir livrer de plus en plus vite les hypercentres.
Une question pour Hervé Payard, vous qui êtes architecte, hein, le patron de M3. Est-ce que vous pouvez nous indiquer effectivement comment, là aussi, dans ces entrepôts XXL, ces plateformes XXL, elles ont évolué, cette fois du point de vue architectural, au cours des 10 dernières années ?
Alors, comme le disait Olivier à l'instant, la matrice de cette évolution, c'est essentiellement la robotisation et l'informatisation des entrepôts. Donc, c'est ce qui se passe à l'intérieur. On parle d'entrepôts XXL aujourd'hui, quand on atteint 80, 90 000, 100 000 mètres carrés, voire plus. Et donc, on peut dire qu'il y a une dizaine d'années, ce type d'entrepôt n'existait tout simplement pas. Donc, leur évolution, elle est très, très forte et très rapide. Elle répond donc aux exigences de la supply chain. Elle répond aussi aux soucis des Français de limiter l'artificialisation des sols. En fait, quand vous créez de nombreux entrepôts, vous créez des réseaux, vous créez des flux, alors qu'avec un entrepôt unique, finalement, on utilise beaucoup moins de terrain. Alors, ça peut paraître paradoxal, parce que je voudrais vous donner une idée à peu près d'un entrepôt XXL. C'est l'équivalent de 20 à 30 terrains de football. C'est une façade de 600, 800 mètres de long, une hauteur qui peut être de 15 à 20 mètres, hein, donc un bâtiment de 7 à 8 étages. Vous voyez l'impact pour le XXL aujourd'hui dans le paysage, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, les collectivités locales ont pris conscience aussi du danger, peut-être, en tout cas, elles n'étaient pas très appétentes à avoir ces espèces de verrues, comme on pourrait dire, ces grands entrepôts qui dénaturaient un peu le paysage. Je parle sous le contrôle de l'architecte.
Absolument, c'est pour ça qu'il faut changer d'échelle, c'est-à-dire qu'il ne faut plus raisonner en termes simplement d'architecture, parce que finalement, dans les zones d'activité, je dirais plus anciennes, vous aviez des rues, des percées, des bâtiments plus grands, plus petits. Certains n'étaient pas très beaux non plus, hein. On sait comment les entrées de ville ont été massacrées avec des couleurs criardes et des néons. Mais bon, il y avait un certain rythme. Aujourd'hui, on travaille à l'échelle du paysage, on travaille à la taille d'infrastructures comme les autoroutes, comme les ports, comme les voies ferrées. Donc, ce n'est plus tout à fait la même chose. Et j'avais l'exemple il y a quelques temps, on travaille sur une base aérienne. Quand on s'est rendu sur place, sur 50 hectares, on avait l'impression que le terrain était plat. Dans la réalité, il y a une pente de 15%. Vous voyez, c'est des choses qu'il faut prendre en mesure de façon à l'échelle du territoire, vraiment à l'échelle du paysage, pour pouvoir gérer ces masses dont je viens de vous parler.
Ouais, ça, des surprises comme ça, on en a souvent quand on imagine sur la carte, voilà, vu de satellite, une bonne zone bien située, près des autoroutes, etc. Puis on arrive sur place, ah, surprise, c'est vallonné.
Bien sûr.
Oui, on a des moyens incroyables pour pouvoir voir la Terre depuis l'espace, depuis Google Earth et autres. Dans la réalité, l'architecture en chaussons, ça n'existe pas. Hein. L'architecture, c'est en bottes et il faut aller sur le terrain. Par exemple, encore un exemple très simple, sur un terrain, vous ne voyez pas nécessairement passer une ligne haute tension. Si les deux poteaux sont de chaque côté de votre terrain, vous ne voyez pas que la ligne passe au milieu. Donc, vous avez tout intérêt à aller sur le terrain et à voir ce qu'il en est réellement. Quel est le contexte? Quelles sont les habitations à proximité? Quels sont les accès, etc., etc. C'est le B.A.B.A. Il n'y a pas d'architecture dans son fauteuil.
Et justement, quelles sont les problématiques architecturales propres aux plateformes logistiques?
C'est évidemment la masse, l'effet de masse. Donc, si vous décidez de faire une plateforme rouge, par exemple, il faut s'assurer qu'elle va bien s'intégrer dans un paysage. Pourquoi pas faire... Nous, on a fait une plateforme de 86 000 m² pour Carrefour, qui est rouge, hein, un rouge Ferrari quasiment, ce qui fonctionne bien parce qu'on est entouré d'un rideau d'arbres. Dans la plaine de la Beauce, un bâtiment rouge de 15 mètres, comme ça, posé au milieu des champs, ce ne serait pas tout à fait... fait adapté à mon avis, mais chaque cas est différent, donc il faut regarder au cas par cas et aller sur place, jouer sur le rythme, jouer sur trouver des percées, trouver une façon de couper un peu la linéarité.
Oui, c'est vrai que quand on parle architecture vis-à-vis de ces grands entrepôts, ça paraît un peu contradictoire, hein, pardonnez-moi, pour un néophyte en tout cas qui se dit finalement c'est un espèce de hangar, c'est un parallélépipède plus ou moins grand. Est-ce qu'il y a quand même, sur la couleur, comme vous le disiez, sur les percées, peut-être sur d'autres éléments de paysage ou des choses sur lesquelles vous pouvez agir pour que ça s'intègre encore mieux dans le paysage?
Moi, quand j'ai créé Atelier M3, c'était pour remettre à l'honneur l'architecture industrielle. Un des plus grands architectes français, Eiffel, était un architecte de l'industrie. Donc, on a, sans être orgueilleux et se comparer, bien sûr, à Eiffel, on essaye de se mettre dans la même perspective, à savoir que l'architecture industrielle doit être de qualité. D'autant que la logistique est pratiquement la dernière industrie française encore non délocalisable. Donc, il y a un véritable enjeu. Et pendant des années, ces hangars, ces boîtes grises, etc., qu'on a pu voir chez vos confrères de la télévision dans des reportages récents, ça a été un petit peu la honte de l'architecture. Aujourd'hui, il faut, et depuis longtemps, mes confrères et moi-même, on travaille sur ça. On travaille à trouver des couleurs, à trouver des rythmes, à trouver des matériaux aussi. Le bois est entré en force dans les façades de l'architecture industrielle. Donc, il y a vraiment un travail très fort, quelle que soit la taille, hein, sur les petits comme sur les gros entrepôts. Il y a une exigence supérieure pour les entrepôts XXL, vu leur impact.
Et Olivier Parisot, comment réagissent les collectivités territoriales justement face à cette multiplication nécessaire du nombre d'entrepôts?
Dans la lignée de ce qu'on est en train de dire, ce que Hervé est en train d'exprimer, les collectivités sont sensibles à deux éléments majeurs. Il y a évidemment l'empreinte et l'impact environnemental des bâtiments. Donc on voit tout le débat aujourd'hui sur la frugalité foncière. Et donc ce débat doit évidemment être entendu et se traduit déjà d'une part par des propositions de foncières recyclées, donc les friches industrielles, plutôt qu'à l'ouverture à l'artificialisation.
Pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que vous allez réutiliser des sites peut-être qui étaient abandonnés?
Oui, de plus en plus, la demande en entrepôt logistique cherche à se positionner sur des friches industrielles anciennes, plus ou moins anciennes, qui sont reconverties, donc démolies et reconstruites. Donc on n'artificialise pas de nouvelles terres, c'est quelque chose qui, évidemment... à la fois dans l'air du temps et qui est fortement regardé par les collectivités. Elles regardent donc l'empreinte et l'impact environnemental des bâtiments. Et là, donc, on parlait tout à l'heure du geste architectural, des bâtiments. Il y a aussi tout ce qui est autour. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait au niveau des espaces verts, au niveau, tout simplement, de rendre ces bâtiments plus vivables, on va dire, pour les utilisateurs, enfin, pour les employés des utilisateurs. Et pourquoi ? Parce que les utilisateurs de ces plateformes, donc les entreprises industrielles, ont besoin aussi de cet aspect pour garder leur personnel. C'est pas si simple, on va dire, de recruter sur une plateforme qui peut faire 100 000 m², par exemple, qui va tout de suite représenter 250, 300 emplois, voire même 2 à 3 fois plus. C'est pas si simple de trouver du personnel formé. Le garder a aussi une valeur. Et on constate que la qualité architecturale et la qualité de vie du bâtiment rentrent aussi en ligne de compte pour ça. Et donc, ça fait partie de l'attractivité de ces nouveaux bâtiments.
dans le, ouais, mais c'est dans la mouvance du bien-être au travail, la fameuse QVT qui est dédiée au travail, où on a envie d'aller aussi dans un endroit qui est peut-être pas beau, mais en tout cas agréable à vivre et à travailler.
Oui, tout à fait. Voilà. Donc, juste pour finir de répondre à la question tout à l'heure sur les collectivités territoriales, comment elles réagissent. Donc, elles regardent l'empreinte du bâtiment et, je viens d'en parler, la création d'emplois.
Bien sûr.
Et donc, en fait, ces deux notions sont importantes. C'est regarder de l'autre côté par les utilisateurs des bâtiments. Le bassin d'emploi est un prérequis. Les notions de fiscalité locale le sont également. Bien souvent, des plateformes, la localisation pour une grande plateforme, c'est la mise en concurrence de plusieurs territoires entre eux. Donc derrière tout ça s'exprime l'attractivité du territoire, et les collectivités locales font déjà pas mal de travail et en font de plus en plus dans tout ce qui va autour de l'accompagnement de l'arrivée en fait, de ces utilisateurs sur un nouveau terrain.
D'accord, puisque évidemment, il ne faut pas être dupe, hein, c'est aussi une manne hein, pour ces collectivités. Donc d'un côté, il y a évidemment préserver bien la nature, l'environnement, mais aussi faire tourner la commune, entre guillemets. Tiens, justement, une question sur ces autorisations d'urbanisme. On a senti avec les élections l'an dernier que certaines communes étaient très, très réticentes à délivrer les permis. Aujourd'hui, ces autorisations d'urbanisme, est-ce qu'elles sont plus faciles à obtenir, justement, avec la crise qu'on vient de connaître ?
Pas vraiment plus, mais c'est pas pire entre guillemets qu'avant. C'est-à-dire que la crise n'a pas eu d'impact majeur sur les délais d'instruction. Par exemple, lors du deuxième confinement, les services de l'État ont continué de fonctionner, donc les instructions ont pu se poursuivre normalement. Ce qu'on note quand même, et ça c'est évidemment normal et tant mieux, les DREAL donc, sont de plus en plus regardantes sur les sujets de sécurité liés à ces bâtiments. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais d'impact environnemental et d'empreinte de ces bâtiments. On regarde de plus en plus à ce qu'ils créent en tout cas le moins possible de nuisances pour les populations avoisinantes.
Une question pour Hervé, également sur ces grandes plateformes. Donc, on l'a bien compris. Hein. Paradoxalement, vous participez donc, en tout cas, ces plateformes XXL participent à la lutte contre l'étalement urbain. Oui. Une question un peu plus technique, en quoi elles permettent de faciliter les contrôles installations classées protection de l'environnement ?
Ça paraît assez évident. Vous avez un nombre limité de contrôleurs qui doit contrôler un nombre important de plateformes. Si vous avez une seule plateforme à contrôler, même si elle est très grande, ça veut dire un seul rendez-vous, ça veut dire pouvoir avoir accès à un seul interlocuteur et non pas à une dizaine. Donc c'est une question tout simplement de temps passé. Moins de sites sont plus faciles à contrôler qu'une kyrielle de sites qui en plus peuvent avoir leur propre existence. Quand le contrôleur se présente et que la société vient de changer, qu'on a obligé de mettre à jour l'arrêté ICPE par exemple. Vous voyez, donc les sites de cette importance sont mieux gérés parce que quand vous avez 80 000 m² à gérer en sécurité, vous avez un responsable qui est dédié. Quand vous en avez 10 ou 15 000, en général, c'est le responsable logistique qui fait ça en plus. D'accord ? Il n'est pas spécifiquement formé peut-être ou il n'a pas toute son attention là-dessus. Donc voilà, ça c'est assez simple de comprendre. Il y a aussi une autre raison qui est assez simple, et nous on l'a vécu en construisant les grandes plateformes de Lidl, c'est que sous un même chapeau, sous un même entrepôt, vous pouvez avoir plusieurs ICPE sur un seul site. Et ça permet d'éviter des petites ICPE, par exemple sur des produits volatiles, sur 300-400 m², sur un petit entrepôt au fin fond de la province. Je n'ai rien contre la province, évidemment, puisque je suis en province, là. Mais qui seront difficiles d'aller trouver. Alors que sur une plateforme gérée comme celle-là, une multiplicité d'autorisations ICPE, donc les classiques, hein, la 15-10, 15-11, le sec, le frais, les pneus et les explosifs. Enfin, il y a peu d'explosifs, mais disons, toutes les catégories sont réunies et sont gérées par un interlocuteur qui est bien au fait du problème.
Très bien. Il nous reste quelques minutes. Audrey, une dernière question peut-être pour Hervé.
Oui, tout à fait. En quoi, en fait, les plateformes logistiques répondent-elles aujourd'hui aux enjeux de développement durable ? C'est-à-dire que quelles sont les attentes des promoteurs, des utilisateurs en ce moment, des investisseurs ? Quels sont les souhaits que vous voyez particulièrement depuis la crise sanitaire ?
Alors, beaucoup a été dit. On a parlé d'étalement urbain, on a parlé d'agrément de vie pour les collaborateurs, on a parlé de massification des flux. Tout ça entre dans le développement durable. Moi, je rajouterai trois thèmes. Le premier, c'est le thème photovoltaïque. Aujourd'hui, il est très difficile d'affecter des terrains agricoles, des forêts, pour faire de grandes fermes photovoltaïques. Les Français ne l'accepteraient probablement pas. En revanche, on a nos immenses toits-terrasses de ces entrepôts qui sont idéaux pour faire ce genre d'installation. Et aujourd'hui, sur certaines plateformes, on arrive à produire 2 à 3 mégawatts par plateforme. Donc ça, c'est la première chose. Le photovoltaïque est parfaitement adapté aux plateformes XXL. La deuxième, c'est la gestion de l'eau. On l'oublie souvent, mais c'est essentiel. Quand vous avez des plateformes et des parcelles très, très grandes, vous allez pouvoir gérer l'eau à la parcelle, empêcher qu'elle soit rejetée dans le réseau et qu'elle soit infiltrée grâce à ces terrains immenses dont on dispose. Donc, on joue avec des bassins, avec des noues pour pouvoir gérer cette eau sur la parcelle. Et je vais même plus loin, quand on a suffisamment de terrain, on peut même faire des traitements phytosanitaires de nos eaux grises ou de nos eaux chargées sur les parcelles, ce qui n'est pas possible évidemment quand on a fait rentrer un bâtiment au chausse-pied sur le terrain. Et puis, pour terminer, ce que nous disent souvent les promoteurs, c'est qu'ils veulent obtenir des certifications. Donc, vous avez toutes sortes de certifications, dont les plus connues sont BREEAM notamment. Mm-hmm. Et puis, vous avez une nouvelle certification qui est Biodiversity Life. Je fais un petit peu de publicité parce que justement, elle accroît un petit peu son spectre et notamment, elle apprécie quand on arrive à créer des puits de diversité sur nos plateformes, à savoir des endroits où la nature va petit à petit reprendre ses droits. Et ça, c'est possible parce que les terrains sont grands, parce qu'on a des zones importantes où on peut créer ces puits de diversité, de biodiversité.
Eh bien, on voit effectivement que cette industrie n'oublie pas les enjeux de développement durable. Une petite réaction, Olivier Parizeau. Je vous ai dû noter, alors, l'eau, photovoltaïque, réglementation, biodiversité.
Oui, tout à fait. Hervé citait ces certifications-là. On est exactement dans cette attente-là. On certifie systématiquement tous nos bâtiments BREEAM. Alors pourquoi BREEAM ? Parce que ça donne un standard comparable de pays à pays. Donc un investisseur international sait exactement comparer les bâtiments, qu'ils soient BREEAM Very Good ou quoi que ce soit. Et on le complète depuis le début, en fait, avec cette certification de biodiversité. Puisque c'est un bon complément, autant le BREEAM va travailler sur les économies, qu'un bâtiment soit économe au moment de sa construction et de son utilisation, autant Biodiversity va travailler deux éléments, le bien-être d'abord des utilisateurs sur site, on en a parlé, mais aussi et surtout peut-être favoriser le retour de la biodiversité sur des terrains artificialisés. D'accord. Donc ça passe par un certain nombre d'aménagements, on y est très sensible parce que ça permet de réduire l'empreinte environnementale de ces bâtiments. Et comme on l'a dit tout à l'heure, comme on est sur de très grandes surfaces, il faut essayer de faire en sorte de réduire autant que possible cet impact.
Ben voilà, on a fait le tour. On sait en tout cas un petit peu plus sur cet immobilier logistique XXL. C'est vrai que XXL, on n'a pas trop eu le temps d'en parler. Ce sera pour une autre émission. En tout cas, un grand merci à nos invités, Olivier Parizeau, Country Manager France de Mandepark. Hervé Paillard, merci beaucoup, fondateur d'atelier M3. Et puis, pour faire le lien, Audrey, on va renvoyer à votre lettre du mois, puisque c'est le thème, le marché mondial de la logistique, qui n'en finit pas de progresser. On a parlé de la France avec ses réglementations, avec ses contraintes, ses enjeux, et on a vu aussi les enjeux de développement durable, c'est très important, mais ça se passe dans tous les pays du monde comme ça.
Oui, absolument. Vous retrouverez un certain nombre de détails sur le marché mondial et sur celui européen aussi au sein de ce dossier. Mais malheureusement, dans l'émission de radio du MAG au carré, nous ne pouvons pas aborder tous les sujets. Mais vous pouvez les retrouver au sein du dossier mètre carré du mensuel de mai.
Voilà, donc qui est déjà disponible, bien évidemment. Un grand merci à tous. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro du MAG au carré.
Le MAG au carré, en partenariat avec la lettre mètre carré.